Vous êtes sur RTL.
7h47, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Adélaïde Charlier, les co-organisatrices du mouvement Youth for Climate, les jeunes pour le climat.
Et je le disais il y a un instant, Yves, elle a 18 ans. Bonjour Adélaïde.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup, vous venez de Namur en Belgique pour être en direct ce matin sur RTL. Vous êtes en terminale, c'est, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en Belgique, c'est la dernière année de lycée en tout cas, mais tous les jeudis vous faites la grève, enfin vous séchez les cours, vous avez créé avec deux autres jeunes belges qui sont flamands dans l'occurrence. Youth for Climate, jeunesse pour le climat, c'est un mouvement qui draine de plus en plus de jeunes derrière vous. Pourquoi ? Parce que les vieux, les aînés n'ont rien fait pour le climat ?
Oui, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Je pense que les vieux ont agi, mais pas suffisamment. Ils n'ont peut-être pas compris l'urgence dans laquelle on se trouvait. Et donc, nous, on se sent la liberté de crier cette urgence et de prendre plus d'initiatives.
Celle qui vous a entraîné dans ce mouvement, Adélaïde, c'est Greta Thunberg, la très étonnante jeune fille de 16 ans, visage rond, couette, charisme incontestable. C'est un peu une star, hein, Greta, pour vous.
Ouais.
Elle est atteinte du syndrome d'Asperger, dont elle dit que ce n'est pas une maladie, mais un don. Et voilà ce qu'elle disait à la tribune de la COP24 en décembre dernier. Greta Thunberg.
En 2078, je célébrerai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront cette journée avec moi et qu'ils me parleront de vous. Ils me demanderont peut-être pourquoi vous n'avez rien fait alors qu'il est encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout. Mais pourtant, vous leur volez leur futur devant leurs yeux.
Voilà, là, des phrases qui font mouche. Quand vous entendiez des adultes écolos dire la même chose, dans le fond, c'est-à-dire il y a urgence, il faut sauver la planète, ça n'avait pas le même poids, ça ne vous touchait pas de la même façon qu'elle l'a fait.
Je pense qu'ici, une jeune fille qui vient parler à des hommes politiques aussi grands, son message était aussi assez simple et percutant. Et donc je pense que ça a créé un déclic dans tous les jeunes mais aussi tous les citoyens qui avaient déjà eu une certaine sensibilisation à cette question climatique et en tout cas moi ça a créé ce déclic.
Elle culpabilise les adultes, elle dit que voilà, je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous paniquiez. Elle a raison de parler
oui,
comme ça.
Oui, bien sûr, il faut mettre les adultes en face de cette problématique, il faut qu'ils commencent à mettre le climat en priorité et pour ça il faut un peu les culpabiliser.
Et l'idée c'est ça, l'idée de votre mouvement, c'est que c'est la priorité absolue. À quoi ça sert d'étudier ? C'est vous qui avez instauré cette grève hebdomadaire en Belgique. À quoi ça sert d'étudier si derrière on n'a pas d'avenir ? C'est ça le message
Nous, on trouve ça incroyable de nous demander de rester derrière nos bancs alors que les politiciens ne font pas leur boulot de mettre le climat en priorité, de mettre notre futur en priorité. Et pour nous, ça n'a pas de sens de rester derrière nos bancs.
Mais qu'est-ce que vous répondez, par exemple, au Premier ministre australien, Premier ministre conservateur, qui, face au mouvement auquel il fait face, lui aussi, en Australie, par exemple, vendredi prochain, il y a beaucoup de jeunes Australiens qui veulent se mettre en grève. Il leur a lancé un message tout à fait public et solennel. Soyez moins dans l'activisme, retournez étudier. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous lui dites à lui ?
Comme on le dit souvent, ça n'a plus de sens pour nous d'étudier derrière nos bancs. On se sent pas écouté. En plus, pour la plupart de nous, on n'a pas encore le droit de vote. Du coup, c'est notre seule manière de se faire entendre. Et donc, je pense que c'est important de justement sortir dans la rue, se faire écouter, parce que c'est vraiment notre avenir qui est en jeu.
Mais c'est une forme de désobéissance civile que vous revendiquez ?
Je pense que oui, parce que déjà, en fait, il y a une urgence en premier lieu. En deuxième lieu, la plupart des scientifiques, des experts ne sont pas écoutés. D'ailleurs, ici en France, votre ministre de l'Environnement a démissionné. Ensuite, il y a eu une lettre Nicolas Hulot. Ensuite, il y a eu une lettre de plus de 200 artistes et scientifiques qui ont été amenés aux politiciens. Ça n'a toujours pas créé de déclic pour prendre plus d'ambition. Et donc, on s'est senti l'obligation, en fait, limite, de désobéir pour pouvoir se faire écouter et pour que les politiciens se mettent enfin en face de la problématique.
C'est quoi votre geste écolo, vous ?
Je pense qu'il faut juste faire aussi attention quand on prend le mot écologiste, beaucoup l'associent à un parti politique. Il faut bien préciser que nous sommes apartisans. Mais ensuite, si on...
Vous, dans la vie de tous les jours, votre geste écolo. Geste écolo.
Je pense qu'il faut prendre un maximum les transports en commun. Je n'utilise jamais la voiture. De plus, je diminue complètement ma consommation de viande. Je mange local.
Vous êtes végane ou végétarienne?
Presque végétarienne. Pas encore, mais j'y travaille depuis que je me suis mobilisée. Et puis, vraiment manger local, je pense que c'est super important de favoriser les circuits courts.
Ouais. Et la voiture, je vous avais entendu dire qu'il fallait que, par exemple, les entreprises renoncent aux voitures de fonction.
Ouais.
Et investissent dans les transports en commun pour qu'ils deviennent gratuits, c'est ça?
Voilà. Enfin, peut-être pas la gratuité, ça, je ne positionne pas sur cette question-là, mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est une meilleure répartition de l'argent. Aujourd'hui, l'argent qui est mis dans les transports en commun est beaucoup trop minime comparé à ce qui est mis, par exemple, dans les aéroports ou alors dans les voitures de société. Mmh. Il faut vraiment repenser tout ça.
Pourquoi la ministre flamande a démissionné? Vous avez fait démissionner une ministre en Belgique.
C'est peut-être pas
c'est fort.
Aussi simple que ça, mais en tout cas, elle a voulu dénoncer que nous étions manipulés par un certain parti. Elle a dit qu'elle avait des preuves, mais le lendemain, elle a dit qu'elle s'excusait parce qu'elle n'avait pas de preuves et que c'était complètement faux, inventé, et selon la pression qu'elle avait, elle a dû
rendre son portefeuille parce qu'elle avait dit une contre-vérité concernant votre mouvement. Mais en Belgique, question environnement, il y a déjà eu des bougées, il y a déjà des évolutions.
Je pense que tout doucement, les lignes sont en train de bouger. Avant-hier, notre ministre de l'Environnement au Conseil des ministres européens a avancé l'idée de taxer le kérosène et les billets d'avion. D'ailleurs, ça a été suivi par la France, par les Pays-Bas. Et donc ça, c'est un premier pas. Mais attention, il faut faire très attention que taxer ne peut pas être la seule action. Il faut mettre l'argent des taxes dans une alternative, par exemple dans les trains la longue ligne, etc. Parce que il faut pouvoir offrir aux citoyens une alternative.
Oui, ça c'est important. C'est aussi ce qu'on a compris d'ailleurs dans une des revendications des Gilets jaunes. Je voulais vous en parler parce qu'il y a des Français dans le cadre de ce mouvement qui s'est manifesté à partir de novembre en France. Des Français qui ont exprimé de la compréhension à l'égard du recours à la violence. Violence comme ultime moyen de se faire entendre quand tous les autres moyens classiques ont échoué. Est-ce que vous iriez jusque-là?
Non. Et d'ailleurs, en Belgique, ça fait 2 mois qu'on manifeste. Toutes les semaines, on n'a jamais utilisé la violence, jamais la police.
Il n'y a jamais eu d'incidents qui ont émaillé des défilés en marche de vos marches le jeudi.
Non, on reste en mouvement pacifique. Et je pense que c'est super important de ne pas justement utiliser la violence, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, on est écouté, on est entendu, on est invité par des politiciens.
Emmanuel Macron vous a reçu.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous en avez gardé comme
c'est une première étape de nous écouter, d'essayer de comprendre pourquoi nous sommes dans les rues. Après, je pense que ce qu'on attend quand même, ce sont des actions. Et j'ai même entendu qu'une loi devait passer ici en France en 2020 sur le plastique à usage unique. Mais malheureusement, à cause des lobbying, ils voudraient la reporter d'un an en 2021. Et ça, c'est une grosse erreur. Et ça montrerait que les politiciens n'ont toujours pas compris.
Vous en avez parlé au président français quand vous l'avez rencontré?
Non, pas de cette problématique-là, mais je lui ai bien dit qu'il fallait agir et on espère qu'il nous a compris.
Merci Adélaïde Charlier d'avoir été ce matin en direct sur RTL et vous lancez vendredi prochain, le 15 mars, une journée mondiale de grève scolaire. Et le mouvement est timide en France, on verra s'il est suivi ou pas à cette occasion. Bonne journée.
Et elle est venue nous voir ce matin de Namur avec sa maman. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à l'une et à l'autre. Dans un instant, Cyprien Sini, qui lui est de bonne humeur, il se combat. Votre combat
toujours
pour le climat avance, elle aussi.
Mon combat pour le climat avance, petitement.
J'espère bien.
Oui. RTL 8h-5. RTL.